Bonjour la vie. Ce matin, nous avons un invité qui va nous amener dans la nature. Mais on va découvrir ce que ce monsieur nous présente, parce que c'est dans le bon sens qu'on s'en va, parce qu'il y a des choses qu'il va nous expliquer, parce que des fois on se pose beaucoup de questions sur ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être aura-t-il les bonnes réponses. Bonjour Christian.
Bonjour Natacha.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter.
Donc je suis Maxime Cosson, je suis le responsable de l'antenne Dordogne du Conservatoire d'Espaces Naturels.
Alors bien sûr, question incontournable, hein. Voilà, qu'est-ce que le Conservatoire et depuis combien de temps et où est-ce que vous œuvrez?
Alors le Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine est une association, loi 1901. On existe depuis 1992 et en fait on travaille à l'échelle régionale à la préservation des milieux naturels et de la biodiversité. Donc moi je représente l'antenne Dordogne où on est 7 salariés qui travaillons sur l'ensemble du département. L'association compte 135 salariés à l'échelle régionale.
Ah oui, d'accord. Donc vous vous êtes dans le coin, sur le Ribéracois ou beaucoup plus loin?
Alors notre siège est à Coulonnier-Chamier,
oui,
à
Périgueux.
Côté de Périgueux, voilà. Et on travaille sur toute la Dordogne où chaque salarié en fait a un territoire.
Ah d'accord.
Sur lequel il peut travailler en lien avec les collectivités et les particuliers.
Alors, vous allez me dire, pourquoi les espaces naturels? Parce que sont-ils vraiment menacés?
Alors oui, la biodiversité de manière générale est très menacée. On a déjà perdu énormément en fait, de surface d'espaces naturels et d'espèces en France. Pour preuve, on a perdu plus de 60% des oiseaux communs.
Ah ouais, les oiseaux.
Depuis les années 80.
Ah,
donc on est en fait sur une pente un peu dramatique.
Oui.
Et donc nous, on met tout en œuvre pour essayer d'enrayer cette érosion de la biodiversité à travers l'acquisition de milieux naturels principalement. Donc on fait des achats de terrain pour pouvoir les préserver, les gérer au mieux. Et aussi accompagner tout ce qui est politique publique, collectivité, pour la meilleure prise en compte de la biodiversité.
Ah oui. Vous parlez des oiseaux, parce qu'autrefois, il n'y a pas très longtemps, on avait des petits troglodytes qui se mettaient dans les trous des murs, c'était trop joli, on n'a plus. Hein. Depuis quelques années, on n'a plus. Hein.
Malheureusement, non. Surtout les oiseaux dits communs, qui sont les pinsons.
Oui, des tout petits.
Les
même
rouges,
un peu plus gros, il y en a qui ont disparu.
Tout à fait, tout à
les
fait.
Le rouge queue, tout ça.
Le rouge queue noir, ah, effectivement. Oui. C'est des espèces qui sont menacées à double titre. Ils perdent des habitats pour se reproduire. Et en plus, leur alimentation est impactée, en particulier par l'utilisation des pesticides. Et donc, la combinaison des deux facteurs fait que ces populations d'oiseaux baissent drastiquement.
Ah oui, c'est pas, parce que je disais, peut-être ils ont été chassés par d'autres oiseaux, mais je ne pense pas. Est-ce que c'est le fait de choses qu'ils mangent et qui les a détruits de la main de l'homme?
C'est directement impacté à l'homme, hein, dû à l'homme.
Ouais,
c'est vraiment la disparition des milieux de reproduction, c'est par exemple la disparition des haies. On a perdu des milliers de kilomètres de haies.
Oui.
Chaque année, on perd encore des milliers de kilomètres de haies à l'échelle nationale. Et aussi, comme je vous disais, l'alimentation où les insectes diminuent fortement.
Oui.
Et donc forcément, comme ces oiseaux mangent beaucoup d'insectes, et bah, les oiseaux diminuent également.
Quoi. D'accord. Bon, et puis peut-être aussi le changement de température au niveau de... J'ai dit peut-être ils sont partis parce que la température de la nature ne leur convenait plus. Hein. Avant on avait, comment ça s'appelle, des oiseaux. Maintenant on a plein, les blanches, là, on en trouve dans tous les sons, les petits oiseaux blancs, avec, comme des grues.
Les cigognes?
Non, plus petits. Il y en a plein partout.
Ah, les hérons garde-bœufs.
Les hérons garde-bœufs, voilà, je cherchais le nom.
Il n'y a
pas longtemps qu'on en a comme ça.
Tout à fait.
Et il y en a, hein.
Et
y en a... je peux vous dire qu'il y en a. Hein.
C'est une des espèces qui se porte bien, pour le coup, qui a de la chance. Effectivement, il y a 40 ans, l'espèce était cantonnée qu'à la Camargue.
Oui.
Elle n'existait qu'en Camargue. Et en fait, grâce au... Ou à cause d'eux, on ne sait pas, le réchauffement climatique, en fait, cette espèce a progressé vers le nord. Et c'est aussi une espèce, comme tous les hérons, les ardéidés, en fait, étaient vraiment détruits systématiquement par l'homme avant les années 80. En fait, c'est une espèce qui a été protégée en 1976. Et grâce à cette protection, en fait, elle a regagné aussi des territoires qu'elle avait perdus.
D'accord. Bon, on va laisser nos petits oiseaux. On va parler. Quelles sont les grandes menaces, hein, par rapport à la biodiversité? Bon, il y a la main de l'homme, il y a les produits, mais il y a peut-être d'autres choses aussi.
Alors, la première menace vis-à-vis de la biodiversité, c'est la perte d'habitat naturel. Ça, c'est scientifiquement prouvé, documenté, à travers le monde, hein, c'est pas qu'en France. C'est clairement la transformation de milieux naturels, de forêts, de zones humides, de choses comme ça, en autre chose. Ce autre chose, ça peut être de l'urbanisation. Donc là, on détruit totalement le milieu, ou transformation en culture, par exemple, pour l'agriculture. Et en fait, ces deux impacts majeurs, c'est ce qui explique la majorité de la disparition de la biodiversité. Après, en deuxième lieu, vient l'utilisation de produits phytosanitaires qui peuvent modifier la composition physico-chimique de l'eau, par exemple, avec les nitrates, qui impactent directement les populations d'espèces qui se retrouvent dans les rivières, comme les poissons. On a le changement climatique qui commence à arriver, où on voit des espèces qui sont sensibles à la température régresser fortement, soit remonter en altitude, en montagne, soit remonter vers le nord. Et ça, on voit vraiment ce phénomène-là. Après, autre menace directe, ce sont les espèces exotiques envahissantes qui se multiplient chez nous. Et on voit aujourd'hui des espèces qui n'étaient pas menacées, qui se retrouvent menacées par ces espèces exotiques envahissantes.
Mais il en va de même pour la mer, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne trouvait pas sur les côtes du côté de Royan et ça, qu'on trouve maintenant des crabes, des machins, qui étaient que dans le sud. Hein.
Tout à fait.
Ils ont
Ouais.
migré aussi, ils ont suivi les courants. Hein.
Oui. Beaucoup d'espèces remontent, et surtout au niveau milieu marin, puisque là, le déplacement est facilité. Et on retrouve des espèces tropicales maintenant
Ah ben
sur les côtes françaises, qui ont remonté assez rapidement, en quelques années, quelques dizaines d'années, se sont retrouvées chez nous et ont pu migrer parfois de milliers de kilomètres.
Ouais. Mais alors là, c'est pas la main de l'homme, parce que dans la mer, bon, ça, elle sert souvent aussi de poubelle, mais je veux dire, c'est pas plus le climat, là.
Indirectement, la main de
Pour tout
l'homme.
ce que... Oui, ah, oui, aussi, elle
C'est... Puisque
aussi.
la modification du climat est liée
Oui,
à
et à la
l'activité
main,
humaine.
oui, en allant chercher plus loin,
Ouais. Tout à
oui.
fait.
Bien, on va faire une petite pause musicale, si vous voulez bien, une pause musicale de votre choix. Donc, on se tourne vers Christian. Et puis après, on va voir un petit peu, on va voir comment vous fonctionnez.
Alors, le premier morceau que vous avez choisi, c'est Imagine Dragon Radioactive.
Welcome to my new
dernière, bien sûr, je vais vous demander quelque chose. Quelle réponse vous apportez, parce que vous êtes là pour protéger la nature, qu'est-ce que vous allez à nos auditeurs apporter comme réponse pour qu'ils puissent... Parce que c'est un endroit qu'on peut faire autour de nous. Nous aussi, on a notre part de responsabilité. Donc, vous avez certainement des gens qui doivent se poser des questions. Mais qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, à moi, autour dans mon potager, peut-être dans mon champ, peut-être dans l'eau de mon étang, ce qu'on a autour de nous. Parce qu'en fait, pour le reste, on n'en sait rien, nous.
Et oui, tout le monde peut être acteur, en fait, de la préservation de la biodiversité. Et une action très simple que chacun peut faire, en fait, la meilleure préservation pour la nature, c'est de la laisser tranquille. Si on la laisse, la nature, elle se reconstitue toute seule. Donc, une action très simple que chacun peut faire, s'il a un jardin, par exemple, c'est laisser un petit carré d'herbe folle, on appelle ça le mètre carré pour la nature, où on laisse la végétation pousser, on tond pas, on attend l'automne, en fait, pour tondre. Et vous allez constater très vite, en fait, des fleurs, des papillons, des insectes qui vont venir coloniser ce petit milieu. C'est juste pour aussi illustrer à petite échelle, en fait, ce qui se passe à grande échelle. C'est que quand on laisse la nature tranquille, eh ben, elle se reconstitue. Si on vient tout le temps la perturber, eh ben, malheureusement, elle se porte mal. Donc, chacun qui a du terrain peut en fait, juste laisser un petit secteur tranquille, sans intervention, en libre évolution, qu'on appelle.
Ça, c'est valable pour les gens qui sont un petit jardin en ville. Mais nous, à la campagne, on a quelquefois notre potager planté au milieu de grandes parcelles d'herbes, tout simplement. Donc ça, c'est un conseil que vous donnez plutôt pour les parties urbaines.
Oh, même à la campagne, hein. On a tendance à vouloir faire propre.
Oui, ramasser nos feuilles. Alors que...
Ramasser les feuilles, tout à fait. Ramasser le bois mort,
oui,
par
tout
exemple.
À fait.
Alors que le bois mort, par exemple,
oui.
C'est une source de vie.
Pour plein de choses.
Pour plein de choses, tout à fait.
Et plein de petits animaux aussi.
Exactement, qui vivent dans ce bois mort et qui, aujourd'hui, disparaissent justement parce qu'on supprime le bois mort de nos forêts, de nos haies, de nos jardins. Et donc, juste de laisser...
Un petit coin pour eux.
Un petit coin pour eux, c'est ça. Leur laisser de la place.
Bien. Alors, Christian, vous vouliez poser une question par rapport à ce que la nature est en train de muter par
oui.
rapport à ce qui nous arrive de loin.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure ces espèces exotiques qui viennent envahir la biodiversité locale, on va dire. Alors, vous ne l'avez pas cité, mais il y a bien sûr le frelon asiatique que tout le monde connaît, la coccinelle asiatique aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour lutter ? Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ces espèces ?
Alors, le cas des espèces exotiques envahissantes est assez compliqué. La première action, c'est de ne pas les ramener chez nous. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Et en fait, c'est de la prévention. La majorité des espèces exotiques envahissantes qui ont été introduites chez nous viennent de jardinerie.
Oui.
En fait, l'herbe de la pampa, la renouée du Japon, toutes ces espèces-là, en fait,
oui.
ont été introduites par les jardineries.
Volontairement,
sans savoir
oui,
ce qu'elles allaient
pouvait,
produire.
Oui.
Donc, il y a une question de principe de précaution, déjà, d'éviter d'introduire des espèces sans
oui.
les connaître. Ensuite, pour une fois qu'elles sont installées, ça devient difficile de lutter contre. Si on prend l'exemple du frelon asiatique, le faire disparaître est illusoire.
Aujourd'hui, il est partout.
Il a colonisé toute la France,
oui.
alors qu'il a été introduit il n'y a que 15 ans, je crois. Donc
oui.
ça,
fortuitement, dans une jarre ou dans un vase.
Tout à fait, en Lot-et-Garonne. Un importateur de poterie chinoise, je
oui,
crois,
oui.
qui l'a mené chez nous.
Et il y avait une reine...
À l'intérieur. Et toute la population française serait issue de cette seule et unique reine. Donc
oui.
c'est assez impressionnant en termes de colonisation.
Oui.
Aujourd'hui, le frelon asiatique, en fait, il existe un prédateur dans la nature qui s'appelle la bonde réapivore, qui est un oiseau, un rapace, qui se nourrit quasi exclusivement de guêpes et de frelons.
D'accord.
Et on a constaté, en fait, que cette espèce... commencer à s'attaquer au nid de frelons asiatiques. En fait, dans le, en Chine, son prédateur naturel en Chine, et une bondrée apivore de Chine.
Mais qui existe chez nous ou à l'état naturel ou...
Elle existe chez nous à l'état naturel. Okay. C'est la bondrée apivore européenne. Okay. Et en fait, on se pose la question, est-ce que cet oiseau va réussir à consommer suffisamment de frelons asiatiques pour freiner un petit peu son explosion? On ne le sait pas encore, mais c'est difficile. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on peut faire contre? En fait, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Préserver les ruchers, puisque l'impact vis-à-vis de l'homme, c'est majoritairement sur les abeilles. Et le piégeage, en fait, du frelon asiatique, il y a des études scientifiques qui ont été menées sur la question par Quentin Rome, du Muséum d'Histoire Naturelle, qui prouvait, en fait, que le piégeage ne fonctionnait que dans des conditions très précises.
D'accord.
Piéger toute l'année, par exemple, c'est totalement inutile. Parce qu'on va prélever des frelons, mais ça ne va pas avoir d'impact sur la population. Le piégeage ne fonctionne qu'à deux périodes très précises, au moment de l'émergence des rennes à l'automne, qui vont aller chercher des nouveaux territoires. Donc, en fait, il faut chercher à piéger les rennes. Et ensuite, au printemps, quand les rennes sortent de leur site d'hibernation pour aller construire des nids. Et donc, il y a, on va dire, 15 jours, 3 semaines critiques de piégeage où là, le piégeage est effectif.
D'accord. Il y a un cocktail bien connu avec de la grenadine, je crois, de la bière. Vous connaissez la recette.
Il y a plein de recettes qui fonctionnent très, très bien. Et en fait, ce que nous, on préconise, c'est piéger autour des ruchers piéger les rennes. Par contre, une fois que cette période critique est passée, de retirer les pièges. Parce qu'en fait, si vous laissez les pièges, ensuite 80 à 90% des insectes piégés ne sont pas des frelons asiatiques. C'est des insectes de chez nous.
D'accord.
Et donc, en voulant lutter contre le frelon asiatique,
on détruit les nôtres aussi.
Exactement. Ah.
Ça, c'est important de le dire, parce qu'on a tendance à les laisser passer l'hiver, on les change après au printemps. Ah, mais c'est très bien de pouvoir le dire, parce que nous, c'est ce qu'on peut faire à notre échelle.
Tout à fait, voilà.
Donc déjà. Et bien sûr, les coccinelles, par contre, elles n'ont pas le même vis-à-vis de la nature, elles sont moins dévastatrices, je pense, que ce gros frelon. On n'a pas d'expérience.
Non.
Parce qu'elles sont aussi jolies que les nôtres.
Oui, sont parfois même plus colorés.
Plus colorés. Bon, le panel est assez ouvert.
Tout à fait.
Mais bon, après, on ne sait pas les conséquences.
Aujourd'hui, on n'a pas mesuré les conséquences de la coccinelle asiatique sur notre biodiversité. On sait juste qu'elles explosent en termes de population, qu'elles sont même plus présentes que la coccinelle locale, la coccinelle à 7 points. Aujourd'hui, on ne connaît pas. Et c'est pour ça que les études aussi, la connaissance est importante. Pour savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire. Avant toute action, il faut étudier. Nous, on fait de l'amélioration de connaissances, donc on fait des inventaires faune-flore, par exemple, pour savoir ce qui existe, ce qu'il y a, parce qu'on est prudent sur les actions. Il n'y a rien de pire qu'une idée reçue, on va dire, en se disant on va faire telle action en pensant que c'est bénéfique et qui se révèle être finalement contre-productive. Donc, il y a une certaine prudence.
Est-ce que ces deux espèces se reproduisent entre elles ou non? Les deux espèces restent bien distinctes?
Les deux espèces restent bien distinctes.
D'accord.
Entre la coccinelle asiatique et la coccinelle européenne, il n'y a pas
d'accord.
de croisement.
D'accord. Ok. Très bien.
Tant qu'elles ne nous détruisent pas nos petites coccinelles, nos petites
bêtes,
à bon Dieu,
si elles mangent les pucerons, c'est essentiel.
Qu'elles mangent les pucerons, c'est mieux qu'un pesticide.
Elles ont été introduites pour ça, d'ailleurs. C'est dans l'agriculture biologique, c'est une auxiliaire de culture. Pour éviter l'utilisation de pesticides, en fait, on a introduit la coccinelle asiatique qui fonctionne très bien en termes de dévoreuse de pucerons. Par contre, le corollaire, malheureusement, c'est qu'elle s'est retrouvée dans la nature.
Qu'est-ce qu'on a encore comme autre espèce envahissante?
Alors, en espèce exotique envahissante, végétal, on va voir des choses qu'on connaît bien, comme l'herbe de la pampa, qui est beaucoup plantée dans les jardins.
Et il y a une loi, quoi, je crois, qui vient de paraître pour la faire détruire.
Tout à fait.
Que si j'ai bien lu le document, le fait que ça fait une grande barbiche, là, ça s'envole et ça se reproduit à foison.
Tout à fait, oui. C'est une interdiction européenne même, qui est passée très récemment. d'interdiction de commercialisation de l'herbe de la pampa. Ça a mis un peu de temps à se décider, puisqu'il y avait déjà une première liste qui avait été produite par l'Europe. Mais effectivement, c'est ces graines dans les plumeaux qui peuvent partir très très loin avec le vent. Et en fait, c'est une espèce qui colonise les zones humides particulièrement. Je vous invite à aller voir au Pays Basque, le long de l'autoroute, ce n'est plus que de l'herbe de la pampa.
Ah, d'accord.
Elle a supplanté absolument tout le reste. Et en fait, elle peut poser des gros problèmes sur des milieux naturels.
Et quand on l'a dans le jardin, il faut le détruire, la supprimer ?
Alors, je vous inciterai à dire que oui, mais si vous voulez quand même garder la plante, parce qu'elle a quand même un certain esthétisme, il faut éviter qu'elle monte en graine. Donc, il faut couper les plumeaux.
Ah, d'accord. Il faut pas la laisser fleurir, en quelque sorte.
Exactement, c'est ça. Si vous la laissez pas fleurir, en fait, elle pose plus de problèmes parce que les graines ne se disséminent plus.
D'accord. C'est ce qui fait quand même tout le charme de la plante.
Ben oui.
C'est, oui, certes.
Oui, mais c'est pour sauvegarder quelque chose. Hein.
Oui, mais beaucoup d'espèces qui ont été introduites pour un aspect esthétique retrouvées.
Parce que c'est une plante, en plus quand vous en plantez un, c'est tout petit, mais après ça, c'est incroyable comme ça se propage, et c'est très difficile à maîtriser, même en la coupant très court, ça fait des grosses masses importantes.
Ouais.
Alors, bon, comment faire dans un jardin?
Mais
ne pas la laisser fleurir.
Déjà, ne pas la laisser fleurir, essayer de la cantonner au maximum, même si parfois c'est compliqué. Et je connais maintenant des personnes qui la retirent de leur jardin parce qu'elles ont le caractère envahissant, même dans le jardin.
Sur une pelouse, après, c'est énorme. Hein.
C'est ça, ça grossit chaque année. Et à un moment, en fait, ça devient compliqué de s'en débarrasser.
D'accord.
Donc, vaut mieux s'en débarrasser plutôt quand c'est jeune que d'attendre trop tard.
J'espère qu'ils ne vont pas nous obliger à le faire quand même.
Pas
pour l'instant, mais c'est dans l'air du temps. Hein.
Non. Sur les espèces exotiques envahissantes, aujourd'hui, les lois qui sont passées, c'est vraiment des interdictions de commercialisation.
Commercialiser, d'accord.
Les espèces qui sont déjà implantées,
d'accord.
On ne va pas aller demander des actions.
Okay.
On a fait à peu près le tour des choses exotiques ?
Oui.
Alors nous allons écouter une chanson et puis après nous allons continuer avec vous pour savoir comment vous faites un peu plus loin avec, par exemple, le monde agricole et les chasseurs.
Alors avant ça, on va écouter Michael Jackson, Earth Song.
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore? You pledge your only son. What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Qui dit agriculture, qui dit le monde agricole, dit aussi, parce que vous êtes obligé de travailler plus ou moins avec eux, même avec les chasseurs qui sont des défenseurs de la nature à l'origine. Donc voilà, comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est vous qui allez vers eux ou c'est eux qui viennent vous trouver?
Alors, notre relation avec les agriculteurs, ça passe par plusieurs voies, on va dire. faut pas perdre de vue que les agriculteurs sont les premiers gestionnaires de la nature. C'est eux qui ont la plus grande surface en gestion. Donc, pour préserver la nature, on ne peut pas faire sans les agriculteurs. Et donc, nous, on travaille de deux manières avec eux. La première, sur nos propriétés. En fait, on est propriétaire de 450 hectares en Dordogne. Et sur ces 450 hectares, on a à peu près une centaine d'hectares de prairies. De prairies de fauche, majoritairement, qui sont gérées et entretenues par des agriculteurs qu'ils exploitent, avec un compromis en fait, qu'on trouve entre l'utilisation agricole et la préservation de la biodiversité. En clair, nous, on pense que ce compromis est possible. Et avec la quinzaine d'agriculteurs partenaires qu'on a en Dordogne, on constate que ça l'est, en fait. On arrive à trouver des moyens à ce qu'ils exploitent les terrains sans mettre à mal la biodiversité, en bonne intelligence. Et le deuxième volet, on va dire, levier qu'on peut utiliser avec le monde agricole, ce sont les mesures agro-environnementales et climatiques. Ce sont des subventions de l'Europe pour favoriser des bonnes pratiques. Donc, on joue sur ces deux leviers où on achète en fait des prairies, des terres agricoles qu'on met ensuite à bail avec un agriculteur selon un cahier des charges précis qui est toujours discuté, hein, toujours validé avec l'agriculteur, jamais imposé. Et de l'autre côté, on mobilise des subventions pour favoriser des bonnes pratiques. Et ça fonctionne plutôt bien, on va dire. Et je suis vraiment désolé de la situation du monde agricole à l'heure actuelle, hein, et qui malheureusement parfois, je dirais, se trompe de cible en pensant que c'est lié à l'environnement ou à la protection de la nature qu'ils ont ces difficultés, alors que nous, on cherche justement à maintenir l'agriculture. Parce que, comme je disais, ce sont les premiers gestionnaires des milieux naturels. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'espèces qui n'existent que grâce à l'agriculture, grâce à l'élevage particulièrement. Parce qu'en fait, l'élevage, c'est une substitution d'un écosystème naturel. Avant, au néolithique, à la préhistoire, on avait des grands troupeaux de ruminants, de chevaux, de rennes, de choses comme ça. Et avec la domestication et l'élevage et l'agriculture, l'invention de l'agriculture par l'homme, en fait, on a substitué ces grands troupeaux par nos troupeaux de moutons, de limousines, de choses comme ça. Ce qui a permis une continuité la biodiversité. Et donc, pour nous, la disparition de l'élevage, c'est une disparition de la biodiversité.
D'accord.
Concernant les chasseurs, nous, on entretient de très bonnes relations avec eux en Dordogne. Tous nos terrains sont chassés en Dordogne. En fait, on limite la pratique de la chasse que quand on voit qu'il y a un risque pour une ou des espèces localement liées à la chasse. Mais sur la Dordogne, en tout cas, sur nos terrains, on n'a pas constaté de menace directe de la part de la chasse. Voire même, on est plutôt à demander à ce qu'ils augmentent la régulation, en particulier du sanglier, qui explose ces dernières années, on le voit bien, et qui, eux, amènent une perturbation dans l'écosystème.
D'accord.
Directement, parce qu'ils sont trop nombreux.
On le voit si vous avez des gens autour de vous qui font la chasse à la distribution des colliers.
Tout à fait.
Il y en a de plus en plus.
Ils doivent atteindre leur quota.
Oui. Oui, je pense que c'est pour réguler aussi.
Ah bien sûr, bien sûr. Oui. C'est vraiment pour limiter la population, parce que ça amène des dégâts sur les cultures, ça amène des dégâts sur les prairies, mais ça amène aussi des dégâts sur la biodiversité. Ouais. Parce que quand il y a un déséquilibre dans un écosystème, en fait, ça a des impacts sur certaines espèces.
Est-ce que vous matérialisez les parcelles qui vous appartiennent? Est-ce qu'on sait qu'on se promène dans une forêt du conservatoire, par exemple?
Alors, pas systématiquement.
D'accord.
Il y a sur certains sites des panneaux d'accueil, sur les sites qui sont ouverts au public et vraiment équipés pour accueillir du public. Vous en avez un exemple pas très loin d'ici. Ça s'appelle la zone humide des Rebérolles à Villetouré.
D'accord.
Si vous passez le pont de la Drône, vous avez un panneau d'accueil du Conservatoire d'espace naturel, où on va d'ailleurs installer pas mal de panneaux cette année d'interprétation pour expliquer l'intérêt de la zone humide, la gestion.
Ouais.
Je parlais de l'agriculture tout à l'heure. Sur ce site, on le fait pâturer par un troupeau de moutons. par un berger itinérant.
L'itinérant, oui. Voilà. Nous avons reçu...
Oui, M. Perret.
Tout à fait.
Ah ben voilà, on l'a eu.
Nous l'avons reçu. Oui. Et puis il y a aussi une dame qui est venue, voilà, qui est dans la double, qui fait de la comme ça, les moutons.
Ah oui. Ouais. Mmh, voilà. Thérèse Colère, je crois.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. On les a reçus, hein, tous les deux. Des choses. Ils ont beaucoup appris aussi. Et puis, tout à l'heure, vous parliez de, justement, préserver par rapport aux agriculteurs. Est-ce que c'est vous qui organisez, par exemple, ma voisine, ou un peu plus loin, elle a été sollicitée pour mettre un champ de luzerne en friche, enfin, comme ça, pour la repeupler des outardes.
Ah, oui, l'outarde canepetière.
Ouais, moi, je n'ai pas le nom savant, moi, je connais que celui-là. Est-ce que ça fait partie aussi de ce que vous faites?
Alors,
pour sauver c'est justement pour sauver la race, la bête.
Oui, oui, oui. Alors, sur l'outarde canepetière, c'est pas le conservatoire d'espace naturel.
Non,
c'est plutôt la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO qui a fait ça. Mais effectivement, sur certains cas, on essaye de recréer des milieux. En fait, on parlait de les habitats naturels tout à l'heure.
C'est ça.
La régression qui fait disparaître les espèces. Pour l'outarde, c'est directement ça. C'est la disparition de la luzerne et de bandes enherbées, en fait, qui a fait disparaître l'outarde.
Donc, on laisse comme ça et on remet les oiseaux dedans pour qu'ils se reproduisent.
Alors, on attend que les oiseaux reviennent. On ne fait pas d'introduction volontaire.
Ah bon, d'accord.
Mais l'outarde, malheureusement, elle a disparu il y a plus de 10 ans, je pense, en Dordogne, 10-15 ans. Ouais. Elle existait que dans certains secteurs du Vertillacois.
Oui, c'est ça.
D'accord, donc c'est dans ce secteur-là que...
Voilà, oui.
Okay.
Et dans les actions que vous menez, vous, alors, est-ce que vous avez des exemples locaux, peut-être, de préservation de la biodiversité qui a fonctionné?
Alors, oui, on essaye au maximum d'avoir des exemples qui fonctionnent. Un exemple qu'on aime bien mettre en avant, qui pour nous est une bonne réussite, c'est le cas du bocage humide du Biacle, sur la commune de Douzillac.
D'accord.
En fait, sur la commune de Douzillac, vous avez un des derniers bocages humides de la vallée de l'Isle, qui a été préservé, sur lequel il y a une colonie de cigognes qui s'est installée il y a quelques années, qui se porte bien. Et ce bocage, en fait, était entretenu par deux éleveurs bovins qui faisaient pâturer et faucher. Donc, quand je vous disais le lien entre biodiversité et agriculture tout à l'heure, qui fonctionnait bien. Et on a eu une opportunité d'achat sur ce bocage, au cœur du bocage, de prairies humides, qu'on a racheté, qu'on a mis ensuite à bail à un agriculteur qui vient faire de la fauche. Et au même moment, les deux agriculteurs du bocage étaient en train de partir à la retraite. Donc nous, ça a été un peu une inquiétude. Qu'allaient devenir ces deux fermes? Qu'allaient devenir les terrains de ces agriculteurs? Donc on a pris contact avec les agriculteurs, on a échangé avec eux, on a discuté avec eux. Ils connaissaient les cigognes puisqu'ils les voyaient quotidiennement. Et ils avaient conscience, en fait, de la problématique que la transmission de leur exploitation pouvait engendrer. On a échangé également avec la commune, avec le maire, Monsieur Mazière, qui a aussi pris conscience, en fait, de la menace qui pouvait exister sur ce bocage, qui était réputé, en fait, un peu pour la commune, puisque la rue qui passe à côté du bocage s'appelle la rue des cigognes. Donc, s'il n'y avait plus le bocage, il n'y avait plus de cigognes, et il aurait fallu changer le nom de la rue. Et donc, on a travaillé collectivement avec la commune, les agriculteurs, la SAFER, enfin, tout un tas d'acteurs, pour trouver des repreneurs, en fait, sur ces deux exploitations agricoles qui soient compatibles avec les enjeux écologiques du bocage. Et on a trouvé un éleveur bovin, un jeune agriculteur qui a repris une partie de l'exploitation, et un éleveur de chevaux qui a repris l'autre exploitation et qui se sont engagés tous les deux à préserver les prairies, le bocage, pour conserver la colonie de cigognes. Et aujourd'hui, on est plutôt satisfaits tous de la réussite de ce projet. Et donc, les cigognes se portent bien.
Elles sont sédentaires.
Alors maintenant, elles sont sédentaires, quasiment. Elles migrent de moins en moins.
Ça aussi, c'est un peu le climat.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est une population de combien d'animaux?
Alors, j'ai plus en tête le dernier recensement, mais on doit être sur une dizaine de nids, à peu près.
D'accord.
De cigognes. Ouais.
Okay.
Ce qui est beaucoup hein, pour la Dordogne. Oui. En Dordogne, on doit avoir une quarantaine, cinquantaine de nids de cigognes au total.
D'accord.
Donc on a un quart de la population qui est sur ce bocage à Douziac.
Très bien.
Et on fait une petite pause musicale et puis on se retrouve après.
Eh bien, on poursuit avec Trio, l'hymne de nos campagnes.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mains vont faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, de troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
si tu n'as rien,
et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Alors bien sûr, toutes les bonnes choses ont une fin, et j'avais encore une petite question à vous poser, et même peut-être Christian aussi. Quel rôle maintenant allez-vous jouer pour essayer d'atténuer le réchauffement climatique? Est-ce que vous avez des armes quelque part?
Alors oui, la biodiversité peut jouer un rôle majeur dans l'atténuation du réchauffement climatique, parce que en fait la biodiversité, quand elle se porte bien, elle est résiliente, et cette résilience en fait amène des bénéfices à l'homme. Je prends un exemple très concret. Quand vous avez des chaleurs caniculaires, la présence de forêts ou d'arbres fait baisser la température de 2 à 3 degrés localement.
Oui.
Rien que ça.
Oui.
Grâce en fait à l'ombre portée et aussi à la respiration de l'arbre, en fait, qui amène à diminuer la température. Mais en fait, la biodiversité peut amener énormément d'aspects positifs contre le réchauffement climatique. Il y a le stockage du carbone, par exemple, dans les arbres, mais aussi dans les sols. Et on oublie souvent le stockage du carbone dans le sol. Le premier exemple, c'est les tourbières. Les tourbières sont une accumulation de débris végétaux qui ne se dégradent pas. Et en fait, c'est du carbone qui est stocké pour toujours. Donc, en fait, préserver les tourbières, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Et un service écosystémique qui est apporté par les milieux naturels, comme les zones humides, c'est le stockage de l'eau. En fait, les zones humides stockent beaucoup plus d'eau que tous les étangs qu'on imagine.
Ah oui, d'accord.
Et en plus, il le stocke dans le sol.
Mmh.
À la différence d'une bassine ou un étang,
oui.
où on stocke l'eau à l'air libre,
mmh.
qui va s'évaporer, va se réchauffer, va se dégrader. Les zones humides, ça stocke l'eau dans le sol.
Mmh.
Et en fait, ce stockage dans le sol va pouvoir être restitué progressivement au cours de l'année. Donc, restaurer les zones humides, préserver les zones humides, c'est préserver l'eau de nos rivières et l'eau de notre robinet aussi.
Mmh.
Donc voilà, ça c'est un des atouts majeurs des zones humides. Donc c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur la préservation et la restauration de ces zones humides.
Mmh. Alors vous êtes une association, vous vivez de fonds publics, mais vous intervenez également auprès de privés. Des particuliers peuvent s'adresser à vous?
Oui, alors notre fonctionnement, on a 2/3 de fonds publics,
mmh.
1/3 de fonds privés.
D'accord.
Les fonds privés viennent majoritairement de ce qu'on appelle les mesures compensatoires. Les mesures compensatoires, c'est quand une entreprise, un maître d'ouvrage a un projet
mmh.
et qu'il impacte la nature,
d'accord.
la biodiversité,
mmh.
il se doit derrière de compenser cet impact.
D'accord.
Donc mmh. pour compenser cet impact, ouais. Il doit restaurer des milieux, comme mmh. les zones humides qu'on a citées mmh. tout à l'heure.
Ouais. Ouais.
Et nous, on les accompagne dans la démarche. Parce que ça demande une certaine ingénierie, c'est quand même assez
oui.
complexe. Mmh. La nature est complexe.
Bien sûr.
Et donc, on les accompagne là-dessus et ils nous rémunèrent pour le faire.
Mmh.
Ensuite, au niveau du particulier, donc on est une association, donc vous pouvez adhérer au Conservatoire d'espaces
d'accord.
naturels.
Mmh.
Et on organise des sorties. Sorties nature, des inventaires participatifs
ah oui.
aussi.
Mmh.
Pour ceux qui sont un peu naturalistes, qui s'intéressent à ce qui les entoure, en fait, on va sur les sites du conservatoire faire l'inventaire de mmh. la faune et de la flore, tous ensemble. Donc, par exemple, on équipe tout le monde d'un filet à papillons
ah oui.
et tout le monde vient capturer les papillons
d'accord.
et les identifier ensuite mmh. Tous ensemble.
Ok, très bien. Alors, comment on fait justement pour vous contacter?
Alors, vous pouvez nous contacter par mail à antenne24@sen-du6na.org.
D'accord.
Voilà. Sinon, on a un site internet. Hein,
mm-hmm.
Vous tapez Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine
ouais.
ou SENENA
mm-hmm.
En acronyme. Et vous tombez sur notre site où vous avez l'agenda des sorties.
Mm-hmm.
Vous avez tous les événements qui se passent dans le secteur et tous nos contacts.
D'accord. Et vous êtes sur les réseaux sociaux aussi ou...
On a une chaîne YouTube.
D'accord.
On est sur Facebook
okay.
aussi. Il y a peut-être d'autres réseaux sociaux, mais je ne suis mm-hmm. pas très réseaux sociaux
ouais.
moi-même. Donc...
D'accord. Très bien.
Bon, mais voilà, on a fait à peu près le tour. Alors, en vous disant merci pour tous ces bons conseils. J'espère que nos auditeurs en ont retenu quelques-uns parce que chacun porte sa... comme vous savez, la petite pierre à l'édifice. Hein. Et puis, on fera tous des petits rossignols, on ira mettre d'autres petites graines quelque part. Parce qu'il va falloir qu'on laisse quand même la nature en bon état à ceux qui vont venir derrière nous. Et ça, c'est important.
Merci pour voilà. votre accueil.
Vous revenez quand vous voulez, quand vous avez des animations, quand vous avez des choses importantes. Nous avons des journalistes, même si ça ne nécessite pas une heure d'émission, vous pouvez faire passer le message et puis ils vous feront un petit reportage.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. On va terminer en musique. Le dernier morceau qu'on va passer, c'est Objectif Terre de Ridan.
Aujourd'hui j'ai de la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. sais que notre vie de chien nous suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien.
Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils s'en foutent.